Mon épouse et moi-même, toute l'équipe pastorale, nous vous présentons nos bons voeux dans le Seigneur. Que la grâce et la paix de Dieu nous soient multipliées par notre foi en notre Dieu, en notre Seigneur Jésus-Christ, et que la direction de l'Esprit de Dieu soit dans notre vie. Donc à chacune, chacun, une bonne et heureuse année, et il nous reste encore beaucoup d'heures devant nous, et beaucoup de mois. Nous croyons que chaque jour, le Seigneur est avec nous. Au travers de ce que je vous ai dit ce matin concernant notre voyage, qui fut une bénédiction, je voudrais vous donner un témoignage. Nous, dès notre arrivée, comme je vous l'ai dit, c'était une visite classée comme visite d'État. Et donc, dès notre arrivée, le directeur du cabinet du Premier ministre était donc là pour nous accueillir, et nous avons été pris par deux militaires, ce fut nos gardes du corps, en civil mais armés. Et puis au bout d'un certain temps, nous avons échangé sur la foi. Je leur ai demandé quelle était leur foi en Dieu. Et l'un a répondu, « Eh bien, je suis chrétien évangélique. » Alors on a retrouvé, sans aller plus loin, notre famille spirituelle. Et l'autre a dit, « Je suis musulman. » Donc là, on a réalisé qu'il y avait un éloignement entre nous, mais que Dieu pouvait rapprocher et faire quelque chose de puissant. Et donc, l'un étant le chauffeur, ne pouvait pas assister aux réunions. L'autre étant le chef dans son titre d'un gendarme maréchal chef des logis, lui, il se devait d'assurer notre protection à l'intérieur et à être à 1 mètre, 1 mètre 50 de nous. Donc, obligatoirement, du matin au soir, il fallait qu'il écoute la prédication. Donc, on ne lui a pas demandé s'il faisait des progrès dans la journée, s'il était content, mais on n'a rien dit. Puis le soir, nous étions dans le salon des ministres. Et puis, après la visite du Premier ministre, qui est venu nous saluer avant que nous partions dans l'avion, quand il est parti, j'ai demandé à un garde du corps s'il avait fait des progrès dans la foi, s'il croyait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et avec un grand sourire, il m'a dit « Oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ». Alors, j'ai dit, mais maintenant, est-ce que vous croyez que, parce que dans la foi musulmane, dans la religion musulmane, on ne croit pas que c'est Jésus qui est mort sur la croix du calvaire, mais que c'est Judas. Et le jour où j'ai découvert cela, j'ai tout de suite montré que Judas est allé prendre l'argent qu'il a vendu le Seigneur, et qu'après un regret s'est manifesté dans son cœur et qu'il s'est suicidé. Et donc c'est une preuve, une certitude que ce n'est pas lui qui est mort sur la croix, mais c'est bien Jésus. Et je lui dis, est-ce que maintenant vous croyez que c'est Jésus qui est mort sur la croix? Il a dit oui, je le crois. Et je lui ai demandé s'il avait demandé pardon de ses péchés. Il m'a dit, j'ai demandé pardon de mes péchés. Alors je lui dis, gloire au Seigneur, très content de tout cela. Et je lui dis, mais votre épouse, Elle doit être contente, vous l'avez informée. Oui, elle est très contente. Alors je lui ai dit, mais elle est musulmane, votre femme? Oui, elle est musulmane. Et je lui ai demandé quelle était, pourquoi elle était contente. Parce qu'elle dit, quand elle était à Ouaga, elle est allée à la mission protestante. Et la mission protestante, c'est nous, ce sont les assemblées de Dieu. Et sur la station missionnaire, il y a donc collège et lycée. Et quand sa femme était très jeune, elle est allée au collège des Assemblées de Dieu, elle est allée au lycée aussi. Donc elle a chanté les cantiques, les chœurs, elle a écouté la parole de Dieu. Et quand, eh bien, elle a dit à son mari, voilà ce que je viens d'exprimer, obligatoirement, son cœur a tressailli de joie parce que son mari venait d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce fut une joie immense et sa femme, elle est journaliste dans une chaîne privée à Bobo-Dioulasso. Donc, le terrain est déjà beaucoup plus facile. On comprend pourquoi cette femme joyeuse, et puis je lui dis, écoutez, allez rencontrer tel pasteur à l'orphelinat, l'oasis, et puis vous donneront la direction pour aller à l'église. J'ai dit, j'ai prêché à tel endroit, donc l'endroit c'est difficile pour moi maintenant, mais il saura bien être dirigé. C'est un témoignage que je voulais vous donner à la gloire du Seigneur. Des fois on nous impose en quelque sorte, et quand j'ai expliqué au Premier ministre, je ne savais pas toutes ces choses, que en réalité, il avait ce garde du corps était un musulman. Quand nous aurons l'occasion de nous entretenir au téléphone dans peu de temps, je lui expliquerai que cet homme est devenu un enfant du Seigneur. Et je crois qu'il faut remercier Dieu de tout notre cœur. Quand on reste à l'écoute de la parole de Dieu, le Saint-Esprit fait son travail. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà, je laisse la place à la parole de Dieu et que Dieu nous bénisse.
J'aimerais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Job, au chapitre 3. Et le verset 25, Job, chapitre 3, verset 25. Job dit ceci: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Amen. En débutant cette année et en renouvelant la lecture de la parole de Dieu, eh ben ce passage m'a interpellé. Et notamment, bon, le début est un passage qui est assez connu. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Mais c'est la fin. C'est ces derniers mots quand il dit, et le trouble s'est emparé de moi. Et c'est vrai que quand nous considérons l'histoire de Job, quand on lit à partir du chapitre 1er, le verset 13, où il est dit qu'un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux, et des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés, et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: des Chaldéens formés en trois bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore Lorsqu'un autre vint, il dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu, je retournerai dans le sein de ma mère. Et au chapitre 2, au verset 7, Satan se retira devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Amen. Quand on lit cela, on comprend pourquoi ces mots, hein, le trouble s'est emparé de moi. Alors que tout allait bien pour Job, alors que il était là, il avait une grande famille, une famille, semble-t-il, unie, les enfants allaient les uns chez les autres, etc. Tout allait bien. Lui, avec une aisance financière, à l'aise, plus qu'à l'aise, parce qu'aujourd'hui, si, par rapport à ses biens, tout ce qu'il possédait, les cheptels qu'il avait, si on devait parler en termes modernes d'aujourd'hui, actuels, on parlerait d'un homme millionnaire aujourd'hui. Et c'est un homme, il est écrit, homme le plus considéré de tous les fils d'Orient, avec une influence considérable, pas d'ombre apparente à l'horizon. Et quand tout, soudain, tout bascule en un instant. Job perd tout ce qu'il a de plus cher et de plus précieux. Et dans ces deux portions de texte que l'on a lu là, les raisons de son trouble nous rappellent, on va le voir, deux épisodes bibliques bien distincts. Il est écrit qu'à chaque fois qu'une personne est venue le voir, il est dit, ça a terminé comme cela, je suis venu ma seule pour t'en apporter la nouvelle. La nouvelle. Et à l'annonce de ces nouvelles, certainement que ces nouvelles successives, que son cœur devait se serrer, son sang se glacer à chaque nouvelle, jusqu'à ce qu'il entende ces mots terribles, tes fils et tes filles. L'annonce d'une nouvelle, le trouble. Et ça m'a fait penser, le premier épisode, c'est celui des disciples. Quand Jésus leur annonce qu'il va le trouble s'est emparé d'eux. Parlons de Jésus, c'est un peu ça, qu'est-ce qu'on va devenir sans lui, c'était leur maître, et le trouble s'est emparé d'eux suite à ce qu'ils ont entendu, et c'est ce que d'ailleurs Jésus leur dira ensuite. Le trouble peut s'emparer de moi suite à ce que j'entends, une nouvelle. Là, en l'occurrence, pour Job, c'était une mauvaise nouvelle. Pour les disciples également, c'était une mauvaise nouvelle. Et mauvaise nouvelle qu'on peut entendre. J'ai pensé à ça parce qu'hier soir, mon épouse, on était chez un de nos voisins qui voulait nous avoir à manger. C'est un homme qui a pris cette nouvelle du cancer. Et je pense que c'était bien qu'on soit là-bas à ce moment-là, pu échanger sur la foi. Mais l'annonce d'une telle nouvelle est terrible. Se dire, mais qu'est-ce qui va m'arriver? On peut voir le cercueil etc. Et pensant à lui ce matin, il était venu en écoutant une sœur, la sœur Marilus, qui a raconté le témoignage qu'elle a vécu. Le frère Besson nous l'avait dit avec ce Nouveau Testament qu'elle avait donné à une voisine, et comment elle me disait les répercussions que ça a eu. On l'a appris, elle, le processus de guérison, et là comment l'autre voisine elle a eu la parole de Dieu, ce sont ses enfants, elle est malade aussi, ce sont ses enfants qui lui lisent la parole de Dieu, et voient les effets bénéfiques qui sont là. Et moi, ça m'a réjoui, parce que je vois ce que Dieu est capable de faire. Le trouble peut venir, Il y a le verdict, c'est vrai, de la médecine, mais il y a aussi ce que Dieu peut faire. Et par rapport à cela, l'autre chose, l'autre lien que je disais, Job, par rapport à deux épisodes, l'un, les disciples, et également David. À un moment donné de sa vie, David va, le trouble va s'emparer de lui. Et pourquoi je le rapproche à Job? Parce que c'est sur le plan physique, en fait. Dans le psaume 38, le trouble s'est emparé de lui. Et il dira même que, à tel point que ça le, il pousse des gémissements au verset 9. Et l'une des raisons de cela, c'est que David est couvert de plaies. Et il est couvert de plaies purulentes, il le dira pour les lire au verset 6. Il est couvert de plaies purulentes. Et ce qui a fait fuir, ce qui a fait fuir ses amis, ce qui a fait fuir ses connaissances, comme c'était un peu dégoûté. Et le trouble s'est emparé de lui. Et rappelez-vous, on a lu tout à l'heure que Job avait été frappé d'un ulcère malin de la plante de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête. Dernièrement, aussi une bien-aimée, seulement a vu qu'un quelque chose, une grosseur là, était apparue au niveau du cou. Le trouble peut arriver. Comme moi-même, en préparant le message, je me suis rappelé d'une expérience à l'école biblique. J'avais oublié qu'un jour, en me levant là-bas dans ma chambre un matin, j'étais couvert de plaques sur mon corps. Et comment, béni soit le Seigneur, après c'est parti. Mais sur l'instant, le trouble peut venir. Mais qu'est-ce que c'est? Il y a une notion d'inquiétude. Et d'ailleurs, j'ai été regarder la définition du trouble. Et c'est défini comme cela: état d'agitation, d'inquiétude, de confusion ou d'émotion dans lequel se trouve quelqu'un. Concernant le trouble des disciples, Jésus leur dira, les exhortera de ne pas être inquiets. Pourquoi? Parce qu'il leur dira, certes, je m'en vais, mais après moi, il y aura un autre qui viendra, il leur parlera du consolateur qui viendra, qui les conduira dans toute la vérité, etc., qui prendra de ce qui est à lui, qui leur donnera. Il y a tout là un magnifique enseignement, portrait du consolateur, et il leur dira, vous ne serez pas tout seul. Vous ne serez pas orphelin. Ce matin, on a entendu parler d'orphelin. Il leur dit, vous ne serez pas orphelin. Le consolateur viendra. Le consolateur, dans le mot d'origine, le grec, c'est le mot paraclète. Nom donné au Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, signifiant aide, protecteur, intercesseur, consolateur. Et en relisant ça, protecteur. Et je me suis dit, c'est vrai que nous vivons des temps troubles. Des temps troubles. Là pour le 31, n'est-ce pas, avec tout ce qu'il y a eu, alors en plein endroit, alors la Belgique, c'est ça, c'était le comble, tout était annulé, il y avait rien du tout, etc. Ici, bon, on l'a réduit, la sécurité, les marchés, et tout ça, parce que voilà, il y a l'atmosphère ambiante, il y a les peurs, il y a tout cela. On voit cette période dans laquelle nous sommes, et puis tellement de choses. Vous avez certainement entendu parler des choses, atrocités qui se sont passées dernièrement. On se dit, tiens, c'est à quelques kilomètres de là, dans le bas de Chantenay, ici. Et le trouble peut venir. Mais j'aimerais rappeler qu'il y a le consolateur, il y a le paraclète, le protecteur, il est celui qui nous protège. On a entendu ce matin encore, qu'en 2016, on a entendu, Dieu nous protégera. Dieu nous protégera. Le trouble. Vous savez, Jésus peut nous comprendre. Jésus peut nous comprendre parce que lui-même a connu ça, a été troublé. Regardez avec moi dans Jean chapitre 13, verset 21. Jean chapitre 13, verset 21. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Jésus fut troublé en son esprit. L'esprit est donc défini comme le lieu donc des facultés intellectuelles, de raisonnement, etc. Et là, c'est concernant lieu des pensées aussi, c'est concernant la trahison de Judas. Quand j'ai pensé à Judas, c'est vrai que Judas a été appelé comme les autres. Il était appelé comme les autres. Jésus lui a donné des responsabilités. En l'occurrence, la bourse. Jésus lui a fait confiance. Il lui a fait confiance. Il l'a envoyé prêcher. Il lui a donné à lui comme aux autres. Il lui a donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Il a vu les miracles. Et Judas, il a vu les guérisons. Souvent, on n'y pense pas. On pense à Judas, oh, le voleur, il prend la bourse. Mais il a vu tout ça. Il a prêché. Il a vu les guérisons, les délivrances, etc. Jésus l'a aimé. Il lui a lavé les pieds comme aux autres. Et sachant qu'il le livrerait un jour, Jésus ne l'a jamais traité avec moins d'intérêt que les autres ou faisant preuve d'une quelconque différence. Judas, il n'a pas mis à part. Judas a été logé à la même enseigne que les autres. Mais concernant la trahison, Jésus n'est pas tombé de haut. Il n'est pas tombé de haut, on est bien d'accord avec ça. C'est pas quelque chose qui l'a surpris. Mais, certainement. Parce que quand il est dit que Jésus fut troublé en son esprit, certainement que là-haut, ça s'agitait là-haut. Pourquoi? Parce qu'on a lu tout à l'heure, dans la définition du trouble, agitation. Et là-haut, certainement, ça s'agitait dans les pensées, etc. Dans Jean 12, 27, il dira autre chose. Maintenant, mon âme est troublée. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Après, son esprit, il était troublé. Là, c'est son âme. L'âme siège des sentiments, des émotions, etc. Jésus ressentait les choses. La Bible parle des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus voit son heure approcher. C'est l'heure de la croix, l'heure de donner sa vie, l'heure de porter les péchés de l'humanité. Mais il y a tout cela, mais c'est aussi une heure qui est sombre et terrible. Si les uns et les autres, si on savait d'avance qu'on irait et qu'on irait dans un endroit et qu'on nous giflerait. Ah, et bon, voilà, c'est pas agréable. C'est pas agréable, mais certains diront bon, les gifles. Mais si on savait d'avance qu'on irait et qu'on nous cracherait dessus, alors là, c'est encore moins agréable. Ça fait partie, pour moi, hein, les gens, cracher sur quelqu'un, c'est comme une des marques les plus basses d'humiliation. Alors, déjà là, ça devient un peu plus difficile. Mais quand, si on savait d'avance qu'on nous flagellerait, hein, des coups de fouet, là, hein, le trouble viendrait si on savait d'avance qu'on nous planterait une couronne d'épines dans la tête. Qu'ensuite, qu'on nous planterait des clous dans les mains. Là, c'est sûr. On le sait, le trouble serait là. Et Jésus, qui n'est pas moins que nous, Jésus a été troublé dans son âme. Troublé. Mon âme est troublée. Les émotions se bousculent en lui. Et il dira, Père, délivre-moi de cette heure. Et là, moi, je trouve magnifique que ce soit marqué là. Jésus l'a dit, délivre-moi de cette heure. Il a eu un moment donné, s'il pouvait être délivré de ça, échapper à ça. Ça, c'est l'humanité de Jésus. Mais qui se reprend derrière. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et là, ce qui est formidable, c'est le verset 28. Quand il est dit, et une voix Une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Pourquoi ? Parce que son père voyait le combat qu'il y avait en lui, dans son fils, là. Le combat intérieur. Et là, une voix se fit entendre. Pourquoi une voix ? Parce que la voix d'un père est rassurante. Et de cela, avant que je ne traite ça, avant lundi, je n'avais pas mesuré l'ampleur de ça. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que lundi, nous sommes allés aux urgences avec mon épouse. Parce que nous sommes allés manger chez les beaux-parents de mon frère. Et mon frère qui était là, il voulait qu'on aille. On est allés. Et Ambre est tombée deux fois par terre, le visage contre terre. Et tout au long de la soirée, rien. On rentre chez nous. On va et je la vois pour aller au lit. Et là, il y a du sang autour de sa bouche. Oh. Et là, on dit, qu'est-ce qui se passe, etc. Est-ce que c'est juste ça? On revoit la bouche, les dents, oh là là. On dit, c'est quoi? Est-ce que les dents qui sont cassées? Il y a tout, vous savez, hein, toutes sortes de choses qui passent. Et après, bon, on décide, on va aux urgences. On va aux urgences. Et voilà, un peu d'attente. Et puis, on est pris. Et puis, l'interne qui vient dit, voilà, on va... l'apaiser avec il lui a mis un masque, etc. On va l'apaiser et puis ça va aussi ça va être indolore. Et elle dit, mais on va devoir mettre point de suture. Bon, elle dit juste un seul, ça ira, mais il faut qu'on fasse ça. C'était le frein qui s'était aidé, c'est pour ça que ça saignait. La bouche, ça saigne beaucoup. Et là, la petite était là et elle me voyait pas. Il y a sa mère à côté, et puis elle me voyait pas. Et puis elle était là, elle demandait son père. Et puis l'infirmière et l'interne lui a dit, il faut que vous lui parliez. Ça, la voix. Et là, j'ai expérimenté en lui parlant, etc. Ça parlait, ça. Et que voilà, elle était bien et tout ça. Et j'ai pris en relisant ça, j'ai pris la mesure de pourquoi la voix, une voix du ciel, se fit entendre son père, une voix rassurante alors que Jésus était troublé dans son âme. Le trouble. Une non trouble, n'est-ce pas ? C'est l'inverse d'une eau qui est limpide. Souvent les eaux troubles dans les piscines ou autres. Et vous savez qu'il y a des entreprises, n'est-ce pas, qui proposent des produits pour justement que l'eau qui est trouble devienne limpide. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah oui, l'eau qui est trouble qui devienne limpide. Et c'est ça en fait dans nos vies. Quand le trouble est là, c'est exactement ça l'image. Comme si les choses ne sont pas nettes. C'est pas net, c'est un peu, et on a besoin que ça devienne clair. Là, des entreprises proposent des produits à mettre dans l'eau pour que ça devienne limpide. Mais Jésus lui propose autre chose. Et je reviens à David et aux disciples, qui à un moment donné ont le trouble s'est emparé d'eux. Et David dira, dans ce même psaume qu'on a lu là, il dira à un moment donné, donc au verset 16, le psaume 38, il parlera d'espérance. Psaume 38, verset 16, Éternel, après avoir parlé de son trouble, hein, verset 16, Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur, mon Dieu. Et ce que Jésus nous propose, quand le trouble s'est emparé de nous, Jésus nous propose l'espérance. Ça, c'était pour David. Et pour les disciples, qui étaient aussi dans le trouble, il leur parlera de sa paix. Je vous laisse ma paix. Voilà l'autre chose que Jésus propose pour que ça redevienne limpide. Revenons pour conclure à notre ami Job. C'était psaume 38, verset 16. Revenons à notre ami Job pour conclure. Quand ses amis qui étaient venus le plaindre et le consoler sont sortis de leur silence de 7 jours, le premier à prendre la parole fut Éliphaz de Théman. Le premier. Et regardez avec moi dans Job au chapitre 4 et le verset 2. Job, chapitre 4, verset 2. Si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné ? Mais qui pourrait garder le silence ? Voici, bon, là il parle à Job, hein, tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié les mains languissantes, tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu as fermé les genoux qui pliaient. Maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Alors là, on va faire une pause. J'ai noté ça, et ben j'aurais bien voulu l'y voir, lui là, Eliphaz. J'aurais bien voulu le voir à la place de Job, d'avoir vécu et ce que toutes les épreuves qui sont arrivées sur Job et de dire oh, toi t'as fortifié les autres, mais toi maintenant que ça t'arrive, ben tu faiblis. On continue. Et maintenant, je vais lui maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Verset 6, ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien, ton espérance, n'est-ce pas, ton intégrité? Bon, là, c'est bon, le discours un petit peu des supra-religieux, parce que c'est un peu facile de dire ça comme ça, quelqu'un qui est dans une telle détresse. Et au verset 8, il dira, pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Alors là, un instant, qu'est-ce qu'il veut dire là? Moi, ça aurait été moi, Job. J'aurais dit, mais tiens, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Ceux qui font le mal, ils en récoltent les fruits, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est que j'ai fait le mal? Tu veux dire que j'ai fait le mal et que j'en récolte les fruits? On voit, à un moment donné, que ces amis, quand ils vont le parler, il y aura, oh là là, toutes sortes de jugements, vous pourrez lire. Mais, néanmoins, il dira une parole. Eliphaz, là, dira une parole au verset 24. Il lui dira, chapitre 5, verset 24. Il lui dira, tu jouiras du bonheur sous ta tente. Tu retrouveras tes troupeaux au complet. Tu verras ta postérité s'accroître et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse comme on emporte une gerbe en son temps. Amen. Je ne sais pas s'il réalisait à ce moment-là, mais là, Eliphaz lui a donné une parole prophétique à Job. Tu jouiras du bonheur sous ta tente. Tu retrouveras tes troupeaux au complet. Tu verras ta postérité, etc. Tes rejetons se multiplier. Regardez dans Job, le dernier chapitre, au chapitre 42 et au verset 12 pour terminer. Il dira, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânes. Il eut 7 fils et 3 filles, comme il avait au départ. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Ketsia, et à la troisième celui de Keren Apuk. Il n'avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la quatrième génération. Comme il a dit, tu verras multiplication de tes rejetons. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Amen. Voilà ce qu'il y a eu après le trouble. Le trouble a été dissipé par le Seigneur. Et ça peut être votre expérience aussi cet après-midi. Le trouble peut être aussi dissipé par l'action du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on pourrait prier quelques instants? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur.